France Info.
Autour dès la soirée et avec ces éclaircies qui vont se développer d'ailleurs la nuit prochaine, nous aurons certainement des gelées demain matin.
Merci beaucoup Christine, merci d'écouter France Info. Excellent début de journée en ce mardi, il est 9h. Et c'est le journal de William Gay-Costa. Bonjour William.
Bonjour, à la une de ce 25 novembre. Qui confirme vouloir transformer le service national universel face à la menace russe, mais qu'il n'est pas question d'envoyer les jeunes Français en Ukraine. Dans l'actualité également, les morts au travail au plus haut en France, selon les derniers chiffres de l'assurance maladie. Et puis le gendarme d'Internet qui réclame le blocage en France d'un site où l'on peut voir des actes de barbarie en vidéo. Des morts de part et d'autre cette nuit. Kiev et Moscou s'accusent ce matin de frappes meurtrières. Au moins 6 personnes sont mortes en Ukraine. Attaque massive qui a aussi touché les infrastructures énergétiques alors que les températures commencent à devenir glaciales. La Russie, elle, annonce la mort de 3 personnes sur son territoire, au moins dans la région de Rostov. Regain de tension alors que des discussions sont en cours sur un plan de paix proposé par les Américains. Il a été amendé face aux demandes des Ukrainiens et des Européens. La Russie pour l'instant rejette cette nouvelle copie. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, lui, pour la deuxième fois en 2 mois, réunit en visio les alliés de l'Ukraine, la trentaine de pays de la coalition des volontaires pour discuter de la suite du soutien à Kiev. Bonjour Isabelle Labéry.
Bonjour.
Rédaction internationale de Radio France, le chef de l'État qui, dans une interview ce matin sur RTL et M6, confirme que la menace contre l'Ukraine vise aussi la France, la menace russe, et qu'il faut donc s'en protéger.
Ah oui, la Russie se montre de plus en plus agressive. Or, le chef de l'État le rappelle, nous sommes largement à portée de ces missiles intercontinentaux. La France et les Européens ne doivent donc montrer aucun signe de faiblesse. Emmanuel Macron confirme la prochaine transformation du service national universel.
Il est très important qu'un maximum de nos compatriotes comprennent ce que sont nos armées, comment ça marche. Et c'est dans ce contexte-là qu'on prend plusieurs initiatives, dont celle de la transformation du service national universel vers une nouvelle forme. Et je pense qu'il faut vraiment tout de suite supprimer toute idée confuse qui consisterait à dire qu'on va envoyer nos jeunes en Ukraine. Et j'aurai l'occasion de l'évoquer dans les jours à venir.
Et face à la polémique créée par le chef d'état-major des armées sur le fait qu'il faudrait accepter de perdre ses enfants en cas de conflit contre la Russie, Emmanuel Macron, une fois de plus, remet les pendules à l'heure.
Son propos a été déformé, sorti de son contexte, il a pu le clarifier comme la ministre. Mais après, il ne faut pas expliquer à tous les Français qu'on va les sacrifier, ça n'a aucun sens.
Il n'y aura pas non plus de soldats français en Ukraine, en tout cas pas tout de suite. Beaucoup de gens veulent faire peur, mais c'est faux, dit le chef de l'État. D'ailleurs, la première chose qui protégera l'Ukraine, c'est sa propre armée, alors que l'accord de paix prévoit toujours de réduire ses effectifs. Comme ses partenaires européens, la France marque ses distances.
Merci Isabelle Labéry. 764 morts, triste record dans le rapport annuel de l'assurance maladie. C'est le nombre de décès suite à des accidents du travail, sans prendre en compte les fonctionnaires et les agriculteurs. Ce matin sur France Info, Fabienne Bérard, la présidente fondatrice du collectif Famille Stop à la mort au travail, réclame des amendes et des peines plus adaptées.
Des choses dissuasives, hein, parce qu'en fait, après de tels drames, déjà la justice, elle est très longue à se mettre en œuvre et à donner des résultats, des années. Donc imaginez avoir commis une faute et pas être sanctionné avant 4, 5, voire 10 ans, ça déjà, les lenteurs ne sont pas dissuasives. Et puis les sanctions ne sont pas à la hauteur des manquements et des erreurs commises.
Voilà. Il faut que les amendes soient proportionnelles à l'activité, au chiffre d'affaires de l'entreprise.
C'est ce que nous demandons, parce que nous, on a constaté dans les tribunaux en moyenne que l'amende, elle s'élève donc en moyenne à 20 000 euros. Et 20 000 euros, c'est même pas le prix d'un utilitaire sur un chantier de nos jours.
Fabienne Bérard au micro France Info de Jérôme Chapuis. Des accidents mortels, des scènes de guerre et même des homicides. L'ARCOM vient de réclamer le blocage en France du site Watch People Die, regarder des gens mourir en anglais. Plateforme américaine qui revendique 4 millions d'utilisateurs dans le monde. Victor Maté, le gendarme du numérique, a donc décidé de passer à la vitesse supérieure contre ce site.
En cause notamment 3 vidéos montrant des actes de torture et de barbarie. L'Office anticriminalité avait demandé leur retrait, mais sans succès. L'ARCOM a donc décidé d'assigner en justice les principaux fournisseurs d'accès à Internet afin, je cite, qu'ils prennent toutes les mesures permettant d'interdire l'accès du site depuis le territoire français, et ce dans un délai de 7 jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. La ministre déléguée au numérique se félicite de cette demande de blocage et condamne, dit-elle, les dérives graves dont le site site s'est rendu coupable. L'ARCOM, de son côté, invoque la loi pour la confiance dans l'économie numérique, comme l'avait fait le gouvernement il y a 3 mois, en attaquant en justice la plateforme Kik. Elle avait diffusé en direct, jusqu'à sa mort, des scènes de maltraitance du streamer français Jean Pormanov.
Victor Maté, le patron de l'ARCOM, qui sera justement auditionné cet après-midi. C'est le premier à être interrogé par la nouvelle commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée sur l'audiovisuel public. Elle est créée à l'initiative de l'UDR, un parti allié du RN qui accuse Radio France, dont dépend France Info ou encore France Télévisions, d'être partiaux dans leur traitement de l'information. La prime de Noël sera versée à partir du 16 décembre, annonce le ministère du Travail. C'est une aide pour 2 200 000 foyers. Pour les bénéficiaires du RSA, les chômeurs en fin de droit, il n'y a pas besoin d'en faire la demande. Le montant n'est pas encore connu. Il était de 152 euros pour une personne seule l'année dernière. Et puis ce soir, de la Ligue des Champions du foot, avec le PSG tenant du titre qui jouera demain. C'est au tour aujourd'hui de l'Olympique de Marseille de recevoir au Vélodrome Newcastle. Il faut une victoire à l'OM qui accumule déjà 3 défaites sur 4 rencontres. Match à 21h que l'on suivra évidemment sur France Info. Il est 9h06, restez avec nous. Les informés vous attendent avec Agathe Lambray et Renaud Dely.
Bonjour et bienvenue dans Les Informés, à suivre sur France Info Radio et sur France Info TV, canal 16. Bonjour Renaud Dely.
Bonjour Agathe.
C'est parti pour une demi-heure de décryptage avec ces deux questions aujourd'hui. Alors que la guerre en Ukraine remet en lumière les questions de défense, le gouvernement peut-il emmener les oppositions sur l'effort à fournir? Et puis nous demanderons si, comme Sébastien Lecornu le pense, il y a une majorité pour voter ce budget. Pour nous éclairer ce matin, nos informés, Alix Bouillaguet, éditorialiste politique à France Info TV, et l'interview politique tous les matins à 7h45. Bonjour Alix.
Bonjour Agathe, bonjour à tous.
Et Étienne Girard, directeur adjoint de la rédaction de l'Express. Bonjour Étienne.
Bonjour Agathe, bonjour à tous.
On commence donc avec notre premier sujet, Renaud. Effort de défense, que peut la France?
Alors que les Européens essayent toujours d'influer, de peser sur les Américains afin d'amender le projet, le plan de paix en 28 points que Donald Trump a dégainé il y a quelques jours. Le Kremlin a d'ailleurs fait savoir hier que les contre-propositions européennes ne lui convenaient pas. Évidemment, la Russie juge que les contre-propositions européennes ne sont pas du tout constructives. Dans ce bras de fer, quel peut être le rôle joué par les Européens et par la France? La France qui alerte un peu plus sur la menace russe, et Emmanuel Macron s'en fait le porte-parole, jugeant que face à cette menace qui se précise en Europe, face au scénario évoqué par divers services de renseignement d'une éventuelle attaque russe contre un pays de l'OTAN d'ici 4 à 5 ans, la France ne doit pas baisser la garde et au contraire enclencher un effort de réarmement. Voici ce qu'en disait ce matin le président de la République, Emmanuel Macron, sur l'antenne de nos confrères d'RTL.
La Russie a une posture beaucoup plus agressive. Elle met plus d'un tiers de son budget en matière de défense. Et donc, si nous voulons nous protéger, nous Français, ce qui est ma seule obsession, nous devons montrer que nous ne sommes pas faibles avec la puissance qui nous menace le plus.
Alors comment justement enclencher cet effort de réarmement? Est-ce que le chef de l'État et son gouvernement, son Premier ministre, peuvent bâtir une forme d'union sacrée? On sait que Sébastien Lecornu veut d'ailleurs organiser en début de semaine prochaine un vote spécifique sur la défense à l'Assemblée nationale. Et puis est-ce que la pédagogie de l'opinion sur ce sujet peut fonctionner? La semaine dernière, les propos du chef d'état-major des armées avaient suscité une polémique. Est-ce que l'exécutif peut réussir à faire passer cette idée dans l'opinion qu'il est nécessaire d'enclencher un effort de réarmement massif et donc forcément coûteux pour faire face à cette menace?
Étienne Girard, vous qui avez longtemps scruté l'âme de la société française pour l'Express, est-ce que vous pensez que le président peut convaincre l'opinion de la réalité de cette menace imminente russe?
Tout dépend de ce qu'on entend par réalité de la menace. S'il souhaite convaincre, ce qui n'est pas le cas, mais ce qui a pu être compris, qu'il fallait aller combattre en Ukraine demain et que quiconque, tous les Français pouvaient être appelés à aller combattre en Ukraine, ça, c'est pas du tout le cas.
Et d'ailleurs, sur RTL, Emmanuel Macron dit c'est pas ça le sujet.
C'était évident, mais la façon dont le chef d'état-major des armées s'est exprimé pouvait donner le doute à ceux qui n'ont pas écouté le reste du discours. discours, qui n'ont pas écouté le reste de ces prises de parole ces derniers mois, ni le reste des prises de parole d'Emmanuel Macron. Prête à perdre ses enfants. Si on écarte cette dimension-là d'une guerre tout de suite contre l'Ukraine directe, alors oui, la menace russe, dans le sens où la menace russe sur le continent européen et sur la France, mais sous des formes qui ne sont pas forcément celles de la guerre directe, qui sont plutôt celles de ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre hybride, c'est-à-dire des manœuvres hyper agressives visant à couper les infrastructures stratégiques, l'électricité, Internet, à faire dévier les avions via des attaques sur les satellites. Ça, c'est une réalité. Ça existe. On en connaît des soubresauts. Il y a eu des coupures d'Internet en France au début de la guerre en Ukraine. C'est passé un peu inaperçu, mais notamment dans le nord de la France. Et donc oui, à mon sens, le président est à la fois dans son rôle comme le chef d'état-major des armées en informant la population de ce qui se passe. Et il me semble, les sondages le montrent, que la population est plutôt réceptive aujourd'hui à cette menace de guerre hybride et donc prête à déployer des moyens plus importants pour le budget des armées.
En tout cas, Alix Bouyaguet.
Ouais, je pense que effectivement, certains peuvent dire il y a une forme de dramatisation, d'autres peuvent en conduire, il y a plutôt une prise de conscience sur effectivement ces menaces qui peuvent peser sur la France et sur sa sécurité. Je trouve qu'il y a une forme de cohérence dans ce que déroule aujourd'hui le chef de l'État. Il prépare à l'évidence les esprits à la fois à des efforts budgétaires et à des efforts humains. Et quand je dis qu'il y a cohérence, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, Emmanuel Macron se campe un peu en chef de guerre avec notamment la tête de la coalition des volontaires sur le dossier ukrainien. Il a aussi un chef d'état-major des armées qui sonne l'alarme, mais qui est dans son rôle. En fait, je comprends à peine la polémique sur le fait on n'a pas une armée aujourd'hui, on a une armée professionnelle. Donc quand il dit faire mourir nos enfants, dans l'armée aujourd'hui, il y a des mômes qui ont 18 ans, 19 ans. Donc, bien sûr, mais un chef d'état-major des armées, il prépare la guerre, il prépare pas la paix. En plus, j'imagine qu'il veut un budget et il veut un bon budget, donc c'est normal qu'il ait cette tonalité-là. Et je pense même qu'il l'a fait avec l'assentiment d'Emmanuel Macron. Je le vois pas partir tout seul dans des explications. Et notamment parce qu'en plus, il a répété dans une émission un peu après qu'effectivement, il a rejustifié ses propos. Donc, alignement des planètes, le budget en hausse, effectivement, de la défense, et puis cette nouvelle avec l'implication des jeunes avec ce service militaire qui serait volontaire, et ça là aussi je pense que il a senti l'opinion, c'est-à-dire qu'en fait contrairement à ce qu'on peut imaginer, il y a aujourd'hui 6 jeunes sur 10 qui se dit prêts à s'engager parce que l'armée aujourd'hui, dans des périodes où parfois le monde ou l'extérieur peut sembler un petit peu hostile, eh bien pour certains jeunes c'est le gage, c'est une quête de sens, c'est un statut social, c'est un cadre qui est respecté et ça peut aussi répondre à une forme d'anxiété. Donc il me semble que ce service militaire volontaire effectivement risque de rencontrer une certaine forme d'attente.
On voit que depuis quelques jours ça infuse en tout cas dans la classe politique, Renaud. Vous pensez que le président peut emmener les oppositions, qu'il peut y avoir une union nationale?
Si j'ose dire, ça infuse comme vous dites, parce que cette menace elle est réelle, et je pense qu'on peut essentiellement remercier d'ailleurs Donald Trump. En fait, le meilleur pédagogue de la menace russe, c'est l'attitude, les allers-retours, les provocations de Donald Trump. Et lorsqu'il dégaine un plan préparé sans aucune concertation qui, en clair, offre l'Ukraine à la Russie, c'est la meilleure pédagogie du fait qu'il y a effectivement une menace russe qui se concrétise, d'autant plus que les États-Unis sont prêts à lâcher l'Europe et à se retirer, à nous laisser en face à face avec Vladimir Poutine. Parce que tout cet exercice de pédagogie qui est nécessaire, hein, qui est mené par l'exécutif, il se heurte quand même à deux problèmes. D'une part, l'impopularité extrême du chef de l'État aujourd'hui, qui fait que sa parole, elle est pas reçue, ou pas suffisamment en tout cas reçue sur ce sujet-là par une large partie de l'opinion. Et d'autre part, les stratégies électoralistes de tous ceux qui sont déjà obsédés par l'élection présidentielle, on le voit sur d'autres sujets, et donc qui n'ont d'autre but que de penser que ce sont justement que c'est une exagération, que c'est une utilisation par le chef de l'État, etc., etc., qui n'ont d'autre obsession qu'Emmanuel Macron, lequel ne sera pas candidat en 2027. On a même entendu Ségolène Royal, qui a quand même atteint le second tour de l'élection présidentielle, c'était certes il y a un certain temps, expliquait que peut-être qu'Emmanuel Macron avait un rêve secret, un rêve inconscient, qui était en fait que nous entrions en guerre pour annuler l'élection présidentielle de 2027. Bon voilà, on en est quand même là, avec un certain nombre de responsables, enfin pseudo-responsables politiques. Donc si on sort de toutes ces élucubrations, et si on retire Emmanuel Macron, entre guillemets, du jeu électoral, il ne sera plus président dans moins de deux ans. La réalité de la menace russe, elle est là, mais elle est déjà là. Il y a déjà une guerre hybride, il y a déjà eu des agressions en termes de cyberattaques, il y a eu des provocations, on le sait, soit à caractère antisémite, hein, les mains rouges taguées au mémorial de la Shoah, soit manifestant une forme de racisme anti-musulman avec des têtes de cochons déposées devant des mosquées, etc. Donc
et
les
y a
Russes,
aussi des personnes qui veulent aller plus loin qu'Emmanuel Macron. Raphaël Glucksmann, il dit il faut un service obligatoire.
Un service obligatoire, mais ce qui est assez
civique
confus,
ou militaire.
Voilà, puisqu'il est assez confus dans l'explication de Raphaël Glucksmann sur ce sujet, c'est qu'il explique que ça pourrait aussi servir à faire de la transition écologique ou de l'aide sociale, ce qui est très intéressant. Mais je suis pas sûr que ce soit avec un service civil dédié à la transition écologique qu'on fasse reculer la menace russe et Vladimir Poutine. Donc c'était assez confus l'explication. Mais en tout cas, cet exercice de pédagogie, il est indispensable. Et il suffit de regarder, d'ailleurs, juste de lever un peu le regard par rapport à nos échéances politiciennes souvent assez médiocres pour regarder que la plupart des services de renseignement, y compris les services allemands aujourd'hui, alertent contre la menace d'une attaque russe, non pas directement contre la France, il ne s'agit pas de fantasmer sur l'arrivée de chars russes dans l'Hexagone, mais contre un pays de l'OTAN, par exemple un pays balte, et puis que la plupart de nos voisins se réarment ou réinventent d'ailleurs, effectivement, ou réinstallent une forme de conscription, qu'elle soit volontaire ou obligatoire.
On s'interroge. Dans un instant, y a-t-il une majorité pour voter ce budget? Mais tout de suite, il est 9h16 et c'est l'info en une minute avec Théo Metton-Régimbaud.
L'Ukraine dénonce les frappes russes de la nuit dernière comme une réaction terroriste de Vladimir Poutine au plan de paix américain. 6 personnes sont mortes cette nuit en Ukraine dans des bombardements. Moscou dit avoir intercepté 249 drones ukrainiens au-dessus de la Russie. Face à l'hypothèse d'un conflit armé en Europe, Emmanuel Macron confirme sur RTL M6 ce matin la transformation du service national universel vers une nouvelle forme sans plus de détails. Le service militaire volontaire fait partie des réflexions du gouvernement. Deux ministres demandent au préfet de faciliter l'hébergement des femmes victimes de violences. Les représentants de l'État dans les départements doivent élaborer un protocole pour reloger dans l'urgence. La circulaire est transmise à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Les jeunes hommes de moins de 21 ans ayant des relations homosexuelles se protègent moins bien du VIH que leurs aînés. Selon Santé publique France, les 18-21 ans ont moins recours au traitement préventif et ont plus de relations non protégées.
France Info.
Les informés, Renaud Dely, Agathe Lambret.
Les informés avec Alix Bouillaguet de France Info TV et Étienne Gérard de L'Express. Renaud Dely, on passe à notre deuxième débat. Sébastien Lecornu, croit-il vraiment que c'est possible ou fait-il semblant sur le budget?
C'est vrai qu'on commence à en douter après le vote de ce week-end. Rappelons-le, un seul député sur 577, et il mérite d'être nommé d'ailleurs, il faut le nommer, ce solitaire, Harold Huvart, a voté en faveur de la partie recette du projet de loi de finances. Une voix sur 577, le texte n'est donc pas passé. Et pour autant, le Premier ministre croit toujours possible de faire émerger une majorité. Il est intervenu hier sur le perron de Matignon et la parole de Sébastien Lecornu est rare. Donc lorsqu'il le fait, c'est que l'heure est grave. Il a dénoncé le cynisme des forces politiques qui veulent le blocage. Mais il croit encore, dit-il, à la possibilité de faire émerger une majorité pour doter la France d'un budget avant le 31 décembre.
Il y a toujours une majorité à l'Assemblée nationale pour permettre de voter un budget pour l'année prochaine. Pour la première fois, des députés se sont parlé, ont travaillé ensemble, ont trouvé des chemins de compromis sur certaines thématiques, sur certains objets qui étaient pourtant très difficiles de travailler. Il y a de cela maintenant encore quelques semaines.
Ils se sont parlé, donc, dit Sébastien Cornu, mais ils se sont mis d'accord jusqu'à présent pour voter contre le budget. C'était le cas samedi dernier. Reste-t-il encore une chance de trouver une majorité, notamment peut-être en se tournant évidemment au premier chef vers le groupe socialiste avec lequel Sébastien Lecornu essaye justement de trouver cette majorité? La réponse est quelques minutes sur ce plateau de celui qui était votre invité, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste.
Je pense que nous allons y arriver. Il ne s'agit pas de dire que nous allons trouver un consensus. Il n'y aura pas, à la fin, des gens qui seront totalement heureux de ce budget. Il ne sera ni de droite ni de gauche. Il sera hybride, forcément. Il y aura des sujets sur lesquels les uns auront avancé, les autres sur d'autres sujets. Mais nous n'aurons pas ce que nous souhaitons les uns et les autres.
Est-ce que ça peut être efficace, Alex Bouyaguet, ce changement de méthode, si c'en est un annoncé par le Premier ministre hier?
Alors, moi, je trouve que cette nouvelle méthode, elle ressemble terriblement à l'ancienne, en fait. Et non seulement à celle de Sébastien Lecornu, mais même à celle de Michel Barnier, à celle de François Bayrou, sur le slogan de responsabiliser les autres. Bon, ben, en fait, ça ne marche pas. Enfin, en tout cas, la démonstration qui a été faite sur le premier passage du budget à l'Assemblée nationale, c'est que les autres, chacun a parlé à ses électeurs en faisant monter les enchères, et que à l'arrivée on voit quoi, le socle commun n'existe pas, ou en tout cas est fragile ou inconstant, que la France insoumise et l'Assemblée nationale veulent définitivement torpiller les débats, et que le PS, à qui quand même le Premier ministre a fait un certain nombre de concessions, et pas des petites concessions, bah, semblait vouloir être de plus en plus gourmand. Donc moi je veux bien entendre ce que dit Olivier Faure ce matin, que ça va marcher, que tout le monde... Mais il va falloir un moment que les gens effectivement soient un peu plus raisonnables, parce qu'on est loin aujourd'hui de la co-construction d'un budget. Franchement, pour l'instant, on en est encore loin. Donc je vois pas vraiment ce qui va pouvoir changer dans l'état d'esprit, et notamment des socialistes, pour que les choses se passent différemment à partir de la semaine prochaine.
Il y a une petite musique qui est en train de monter au Parti Socialiste, Étienne Girard, c'est celle d'un deal noué avec le Premier ministre, d'assumer, de se mettre d'accord. On a interrogé Olivier Faure tout à l'heure là-dessus, il ne dit pas non. Il a peur de donner l'impression qu'il serait allié et pas dans l'opposition, mais il dit, à condition de rester dans l'opposition, pourquoi pas se mettre d'accord? Vous pensez que ça peut être ça la solution?
J'ai écouté Olivier Faure, c'est une main tendue qu'il semble faire ce matin à Sébastien Lecornu. Je serais Sébastien Lecornu, je serais un peu plus optimiste aujourd'hui que je l'étais hier, parce qu'effectivement on a l'impression d'un léger changement de posture du Parti Socialiste, comme s'il se rendait compte à mesure que le calendrier avance, que ce serait pas si bon pour leur image de paraître s'opposer à tout et de paraître être exactement aligné sur les propositions de la France insoumise. La voie politique acceptable pour le Parti Socialiste, elle est assez étroite, parce qu'on comprend bien que dès lors où ils vont se mettre d'accord sur quelque chose avec le gouvernement, ils seront vilipendés à leur gauche par Jean-Luc Mélenchon, qui expliquera que les social-traîtres ont encore trahi. Donc, paraître être responsable sans donner l'impression de trahir à 3 mois des municipales, je rajoute un élément dans la balance, c'est pas évident, mais je prends acte de la main tendue d'Olivier Faure ce matin à Sébastien Lecornu, donc il y a plus qu'à bosser de la part de Sébastien Lecornu pour convaincre ses partenaires socialistes, enfin, ceux qui espèrent être ses partenaires socialistes.
Je vous vois dubitatif, Renaud.
Je suis d'accord avec la démonstration d'Étienne Girard, mais j'apporterai un bémol, c'est-à-dire que le problème est toujours le même, c'est celui que vous venez d'évoquer, Étienne a raison, les sociodémocrates sont-ils capables, suffisamment forts, pour se dégager de l'intimidation de la gauche radicale, en quelque sorte. L'idée que si jamais ils passent un accord pour faire passer le budget avec le gouvernement, ils soient vilipendés, voués aux gémonies par les insoumis et par Jean-Luc Mélenchon au premier chef, qui va noircir, si j'ose dire, son blog pendant des pages et des pages, évidemment, le problème c'est que de toute façon, il le fait déjà. Donc il faut que les socialistes comprennent, enfin me semble-t-il, c'est leur intérêt, que s'arrêter au milieu du guet n'a pas de sens, puisqu'ils sont déjà vilipendés tous les jours, matin et soir, par les insoumis, comme étant des traîtres vendus au grand capital. Je résume, mais c'est quand même le sens. Et en l'occurrence, évidemment, à l'ogre Emmanuel Macron. Donc soit ils vont jusqu'au bout de leur logique politique, c'est-à-dire qu'ils essayent de faire émerger, de faire réexister plutôt, de ressusciter une autre gauche réformiste dite, entre guillemets, responsable, qui assume de mettre les mains dans le cambouis, etc. On connaît cette ligne-là, alternative aux insoumis, et donc de porter, évidemment, derrière une candidature à la présidentielle alternative à celle des Insoumis. C'est ce qu'expliquait Olivier Faure tout à l'heure, a raison. Jean-Luc Mélenchon ne viendra jamais dans une primaire de toutes les gauches. Il est déjà en campagne, il a sa ligne, on la connaît, il a déjà été candidat, donc c'est à la gauche de voir si elle peut faire émerger une autre candidature sur une autre ligne, avec toute la pluralité des gauches. Et dans ces cas-là, c'est maintenant que ça se joue. C'est-à-dire qu'il faut que les socialistes aillent jusqu'au bout, me semble-t-il, de leur logique politique. Soit ils en sont incapables, et dans ces cas-là, ils vont rentrer dans le rang et se plier de nouveau aux fourches codines de Jean-Luc Mélenchon.
Ouais. Alex Bouygues.
Non, mais en fait, moi, j'arrive pas à comprendre ce qui a changé entre vendredi soir, effectivement, avec ce budget qui est rejeté, sauf une voix, et aujourd'hui. En fait, les socialistes, d'ailleurs, je me demande même pourquoi ils ont rejeté ce budget, parce que, mine de rien, dans ce budget, il y avait quand même des choses, la taxe sur les multinationales, sur les dividendes, sur le rachat d'actions, il y avait quand même des choses qui allaient dans leur sens. Ils avaient l'assurance que dans le projet de loi de finances, la sécurité sociale, en plus, était inscrit dans le marbre, la suspension de la réforme des retraites. Bon, moi, je trouve
que le problème, c'est que chacun a mis dans ce budget ce qu'il voulait, donc il y a aussi des choses qui conviennent pas aux socialistes.
Ah ben oui, mais alors là, ils nous parlent de compromis ce matin, donc pourquoi est-ce que personne n'a joué le jeu vendredi et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tout le monde jouerait le jeu? Moi, j'ai quand même une grosse inquiétude sur le fait que décidément à 3 mois des municipales, avec effectivement, comme l'a signalé Sébastien Lecornu, eh bien du cynisme de certains qui sont présidentiables. Hein. On pense à Marine Le Pen et à Jean-Luc Mélenchon qui veulent que ça capote. On pense aussi à Bruno Retailleau qui nous explique que ce budget c'est un hold-up et qu'il est invotable. Bon, c'est quand même mal parti.
Je pense que l'hypothèse, c'est juste que tout le monde, ce qui renvoie d'ailleurs à une forme d'irresponsabilité politique, considérait que c'était un brouillon en fait, l'examen en première lecture.
Donc
on fait ce qu'on veut, voilà. Et là, il y a un petit coup d'ardoise magique. On passe. Vous vous souvenez de l'ardoise magique, hein? Voilà. On efface tout et on passe à une seconde lecture où là, on va être beaucoup plus responsable. Le risque, évidemment, c'est que, emporté par cette surenchère, cette concurrence de surenchère, eh bien, soit plus difficile aux uns et aux autres de faire rentrer, en quelque sorte, leur troupe dans un comportement beaucoup plus, justement, qui puisse accoucher d'un compromis. Puis l'autre risque, on le voit en ce moment même, c'est que, jusqu'à présent, en tout cas, ce qui s'est produit depuis 125 heures de débat, je crois, à l'Assemblée nationale, rien que sur le projet de loi de finances, ce qui se produit, c'est ce qu'on voit dans les sondages. Jordan Bardella est donné au second tour d'une éventuelle élection présidentielle aujourd'hui entre 53% face à Édouard Philippe et 74% face à Jean-Luc Mélenchon. Le comportement de ces forces politiques jusqu'à présent à l'Assemblée nationale est en train de dérouler le tapis rouge à l'élection d'un président d'extrême droite en 2027.
Et là, on est censé repartir dans une série de consultations sur 5 thèmes différents, Étienne Gérard, alors qu'on est censé boucler le budget avant fin décembre. Donc ça paraît un peu ambitieux aussi.
Effectivement, Sébastien Lecornu avait déjà utilisé cette méthode lors de la loi de programmation militaire. Il avait demandé à chaque force politique sa priorité. Il avait essayé de négocier sur des priorités et ça avait marché en donnant un peu de chaque priorité à chaque parti et chaque groupe de l'Assemblée nationale. Donc il essaye de faire la même chose. Sur la défense, par exemple, ça pourrait marcher. C'est vrai que la perspective qu'on ne puisse pas voter dans un moment où on nous explique que la défense, c'est très très important, les 3,5 milliards d'ouverture de crédit, ça doit être préoccupant pour quiconque s'intéresse à la défense de la France. Sur la lutte contre les déficits, ce sera plus compliqué, parce que là, à mon sens, il y a beaucoup moins de consensus au sein de l'Assemblée nationale entre les forces politiques.
Et sur la défense, c'est une manière d'appâter la droite aussi.
Oui.
Les LR qui étaient...
Oui, en fait, il veut avec ces 5 débats thématiques suivis de vote, il veut un peu dépolitiser le problème et montrer qu'il y a des consensus.
Il prendra témoin à l'opinion aussi.
Sauf que prendre à témoin l'opinion, tout à fait, sauf que des votes qui vont être purement indicatifs, purement symboliques, moi, excusez-moi, je suis pragmatique, je vois pas en quoi ça fait voter un budget à la fin.
Alice Buyaguet, sceptique, merci beaucoup, éditorialiste politique à France
J'espère
Info.
Me tromper.
TV, votre interview politique tous les matins à 7h45. Merci beaucoup Étienne Gérard, directeur adjoint de la rédaction de l'Express, à la une de l'Express.
L'homme que les Européens devraient écouter, Mario Draghi, l'ancien Premier ministre italien.
Précipitez-vous dans les meilleurs kiosques de France.
Absolument.
Merci Renaud Gulli. On se retrouve demain.
À demain.
Et vous retrouvez les informés ce soir à 20h avec Victor Matet.
France Info Météo, avec le CIC, entreprise à mission. S'engager à ne pas commercialiser les données de ses clients, c'est ça construire pour que le monde bouge.
La météo, Christine Peña, le soleil revient par le nord, c'est ça?
Par l'ouest.
Par l'ouest,
mais
pardon.
Oui, la Bretagne jusqu'au Bordelais, du soleil, effectivement, qui va revenir. Alors, je savais pas les filles, là, Alix, et vous-même, le rose. C'était le rose aujourd'hui.
C'est la team rose.
Le soleil
qui revient.
Le soleil, on va le fêter, effectivement. Il revient également en Méditerranée avec beaucoup de vent, et puis nous avons des pluies encore. Elles sont assez présentes sur le nord-est du pays, de la Lorraine à l'Alsace, jusqu'à l'Auvergne-Rhône-Alpes. Elles donneront ces pluies de la neige en montagne dès 700 mètres d'altitude, de bons paquets de neige, notamment sur les Alpes du Nord. Les Alpes du Sud sont au soleil. Nous avons également un blocage là de pluie, de neige sur les Pyrénées, jusque dans les Landes. Alors dans les Landes, c'est de la pluie. La neige, c'est à partir de 1000 mètres d'altitude sur les Pyrénées. Et nous aurons peut-être des orages d'ailleurs qui circuleront pour aujourd'hui. Demain, c'est l'accalmie. Le ciel va se dégager. Certainement de nouvelles gelées matinales pour demain matin. Les températures devraient baisser hein, avec les nuages qui vont quitter un peu le pays. Et puis les températures cet après-midi, on ira jusqu'à 6 à Strasbourg. Les prévisions